Le journal Sarah Guibaudot, bonsoir.
Bonsoir. La tension monte aux frontières du Venezuela. Des milliers de manifestants espèrent faire rentrer l'aide humanitaire et faire plier par la même occasion le pouvoir de Nicolas Maduro. Nous irons à la frontière colombienne avec notre envoyé spécial Benjamin Illy. À Paris, Emmanuel Macron poursuit son bain de foule entamé ce matin au Salon de l'agriculture. À défaut d'interdire totalement le glyphosate d'ici 3 ans, il espère que le vin français pourra s'en passer. Chiche, répondent les viticulteurs, mais à condition de vendre plus cher. Les gilets jaunes ont à nouveau manifesté sous le soleil et dans le calme en général, malgré des heurts à Clermont-Ferrand et Paris notamment. Sur l'ensemble de la France, ils étaient près de 12 000 à 14 heures. Au Vatican, l'Église catholique poursuit son examen de conscience sur la pédophilie. Nous irons à Rome avec Mathilde Imberti. La France sera aux côtés du Mali aussi longtemps que nécessaire, c'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe en visite à Bamako, 6 ans après l'intervention française, les attaques djihadistes continuent. Et puis le sursaut du 15 de France, les Bleus ont disposé cet après-midi de l'Écosse 27 à 10 grâce aux jeunes rugbymen, même si on n'est pas encore sur du très haut niveau, nous dira Vincent Pellegrini. La vie connectée de Christine Siméon, vous voulez faire votre propre podcast, rien de plus simple, on vous explique.
France Inter.
Au Venezuela, les partisans du président autoproclamé Juan Guaido sont bien décidés aujourd'hui à faire entrer l'aide humanitaire américaine stockée aux frontières. Au-delà des vivres et des médicaments dont la population a bien besoin, l'opposition y voit bien sûr un moyen de faire plier Nicolas Maduro, l'héritier d'Hugo Chavez. Il est encore impossible de dire ce soir de quel côté va pencher l'histoire. Des incidents entre militaires vénézuéliens et manifestants ont éclaté sur 2 ponts frontaliers avec la Colombie. Juan Guaido annonce qu'un premier camion aurait passé la frontière brésilienne. Et là où se trouve notre envoyé spécial Benjamin Illy, à la frontière côté colombien, des milliers de Vénézuéliens espèrent lui emboîter le pas.
Alors pour l'instant, la foule reste bloquée à l'entrée du pont Tianditas, le pont frontière. Mais elle met la pression, elle chante, elle exulte. Là, il y a un camion grue qui est en train de passer devant la foule qui acclame le conducteur, camion qui devrait aider à bouger les citernes installées sur le pont Tianditas par le gouvernement de Nicolas Maduro. Ces citernes, ces remorques qui barrent la route à l'aide humanitaire.
C'est comme il y a plus de 200 ans après la libération du Venezuela par Simon Bolivar, raconte cet homme qui a dormi sur place pour appuyer l'aide humanitaire. Et en 2019, dit-il, nous allons retrouver la liberté. La liberté du Venezuela entrera par ici, par l'état de Táchira, jusqu'à Caracas.
Quelques militaires ont déjà déserté les rangs de l'armée vénézuélienne ce matin à la frontière.
Si l'un d'entre eux fait un pas en avant, les autres vont suivre, veut croire ce Vénézuélien venu de San Cristobal. On est comme des fourmis, l'union fait la force. Le Venezuela sera libre, aujourd'hui même. À Cucuta, Jérémy Thuil, Benjamin Illy, France Inter.
Et à l'instant, on apprend que 4 camions d'aide tentent de forcer le passage depuis la Colombie vers le Venezuela. À Paris, comme l'année dernière, Emmanuel Macron aura passé la journée à déambuler dans les allées du Salon de l'agriculture. Le président a été interpellé sur son parcours, sur des sujets très divers, élevage, petite retraite ou permis de conduire. L'an dernier, il avait adopté 2 poules. Cette fois, ce sera un chevreau pour l'Élysée. Dans son discours d'ouverture d'1 heure, Emmanuel Macron a reconnu les difficultés du quotidien des agriculteurs. Il a appelé à réinventer la politique agricole européenne qui devrait être davantage consacrée à l'environnement, selon lui. Et alors que le gouvernement a renoncé à inscrire dans la loi l'interdiction du glyphosate dans les 3 ans, le président se dit convaincu que le vignoble français, lui, peut arriver à se passer de ce désherbant cancérogène. Qu'en pensent les viticulteurs ? Manuel Ruffez a passé la proposition au banc d'essai.
Le discours du président de la République, ils l'ont suivi en direct ce matin de leur stand, celui du comité de l'interprofession des vins au Salon d'agriculture. Et l'accueil est positif. Se passer totalement de glyphosate, c'est une démarche de progrès, dit même le président de l'interprofession, Jean-Marie Barillère, à condition que ça ajoute de la valeur.
Un abandon à terme du glyphosate n'est possible
que dans la mesure où le vigneron qui investit et qui travaille différemment ses vignes, ça va lui coûter plus cher. Il faut qu'il ait un revenu supplémentaire et il faut que les structures de négoce soient capables d'augmenter leur prix au niveau du consommateur, au niveau mondial, pour que l'ensemble de la chaîne soit créatrice de valeur et non pas destructrice de valeur.
Ça va nous demander du temps et beaucoup d'efforts, reconnaît tout de même de son côté Jean-Bernard Delarquier, viticulteur. Mais c'est un défi que l'on se doit de relever.
Il y a tout à fait une volonté. Aujourd'hui, ne vous imaginez pas que le vigneron, qui est le premier concerné, c'est lui qui applique les produits. Donc il est conscient de ce qu'il fait. Il vit sur un territoire où vit sa famille. Il vit sur un territoire où sont ses amis. Il n'a aucun intérêt à détruire ce territoire qui, ne l'oublions pas, fait sa richesse.
Et puis ils le reconnaissent, ça va très vite devenir une demande du consommateur lui-même. Au Salon de l'Agriculture, Manuel Ruffez, France Inter.
Marine Le Pen a dénoncé de son côté les mensonges éhontés, je cite, d'Emmanuel Macron. La présidente du Rassemblement national visitait de son côté une ferme en Haute-Marne. Elle a pris la pause avec des cochons pour vanter le local face au libre-échange. La mobilisation des Gilets jaunes se maintient à un niveau plutôt faible. 11 600 manifestants à 14 heures selon le ministère de l'Intérieur. Un niveau toutefois légèrement supérieur à la semaine dernière pour ce qui est leur 15e samedi de manifestations, avec un pique-nique au soleil à Chambord, quelques affrontements avec la police à Rennes, à Clermont-Ferrand et en toute fin de rassemblement à Paris, place du Trocadéro. À Marseille, ils ne sont plus très nombreux. Stéphane, lui, est toujours déterminé, mais désabusé aussi.
On est un peu écœuré de cette injustice sociale. Tout ce qu'on demande depuis le début, on n'a rien. C'est pas l'augmentation du SMIC qui a changé quoi que ce soit, c'est pas ça qu'on veut. C'est une baisse dans les magasins, des produits de première nécessité en premier lieu. Ensuite, ce qu'on demande, c'est bien sûr une démission de Macron. On s'en doute bien que c'est pas possible, mais il va falloir qu'il change beaucoup de choses. Moi, ce qui me décourage, c'est les Français qui ouvrent pas les yeux par rapport à ce qu'on se fait enfler. Quand on va dans un magasin, moi je travaille, il me reste 500-600 euros pour la nourriture, je m'en sors pas. Moi je suis là depuis le 17 hein, et je compte rester là, même si je reste seul, je compte manifester jusqu'à longtemps quoi.
Propos recueillis par Isabelle Dore. À Héry-Moncourt, dans le Doubs, c'est pour soutenir les salariés de PSA que la commune s'est mobilisée. La production de moteurs de voitures doit être transférée à Vesoul. 200 emplois sont menacés. Les commerçants ont fait une opération ville morte et un petit millier de personnes se sont rassemblées ce midi en signe de protestation. Manon Klein.
Tous les rideaux des commerces sont baissés. Leurs propriétaires et gérants défilent aux côtés des syndicats. Parmi eux, Sandrine, coiffeuse, elle est inquiète.
C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous disent on va déménager, si ça se passe comme ça, c'est vrai que ça fait peur, quoi. On risque de perdre de la clientèle, quoi.
Aux côtés de Sandrine, il y a Hervé, restaurateur à Héry-Moncourt. Les salariés de PSA, c'est environ 30% de sa clientèle. Alors pour lui, si le groupe automobile part définitivement, les conséquences seront lourdes.
Ben, c'est la mort du village, déjà. La ville, elle a déjà du mal à tenir debout. Alors en plus qu'une usine s'en va, c'est la catastrophe pour tout le monde. Pour le salon de coiffure, pour le restaurateur, pour le bureau de tabac.
Fabrice, justement, est buraliste. Comme la plupart des commerçants, il n'est pas simplement inquiet pour son chiffre d'affaires. Car ici, Peugeot, c'est tout un symbole. Fabrice ne peut pas imaginer Héry-Moncourt sans PSA.
C'est plus Héry-Moncourt, c'est le berceau. Ça a toujours connu PSA, Héry-Moncourt. Donc sans PSA, c'est plus Héry-Moncourt. C'est le site historique, c'est le berceau, c'est là que tout a commencé. Donc on ne voit pas que ça se finisse comme ça, quoi.
En tout cas, élus et syndicats ne comptent pas en rester là. Les élus du pays de Montbéliard ont récemment adressé un courrier au patron de PSA, Carlos Tavares, pour demander à ce que toutes les activités de l'usine d'Héry-Moncourt restent sur la commune.
L'Église catholique poursuit son autocritique sur les abus sexuels. Au troisième jour du sommet au Vatican, le cardinal Marx, proche du pape François, a prôné une nouvelle culture de la transparence sous la pression des victimes qui se font entendre dans les rues de Rome. Le reportage de Mathilde Imberti.
Ce samedi, veille de conclusion du sommet, elle s'affiche plus que jamais. Ces victimes de prêtres pédophiles organisées depuis quelques mois seulement en un réseau international se sentent plus fortes. Une jeune victime d'Équateur.
Oui, c'est comme une victoire. C'est la plus grande réunion de victimes jamais organisée et à Rome. On se dirige à pied vers le Vatican. Maintenant, ce sont leurs solutions que l'on attend.
Pero por favor, que entonces el Vaticano se acerque a nosotros y nos dé las soluciones exactes que estamos pidiendo.
Livrer son témoignage, c'est replonger dans une histoire de douleur. Et pourtant, elle raconte pour que l'Église ne détourne plus le regard. Benjamin Kitobo a été violé à l'adolescence dans un petit séminaire au Congo.
Nous allons aider les victimes à venir en avant. Moi, j'ai eu le courage des victimes américaines. J'ai parlé publiquement contre mon abuseur à partir des États-Unis. En Afrique, ce n'est pas encore possible. C'est encore très dangereux même. Ils ont encore beaucoup de pouvoir. Ça prendra encore quelques années avant qu'on commence vraiment à en parler.
Le cri des victimes se fait entendre dans Rome tandis que les évêques poursuivent leur autocritique au Vatican. Ce matin, le cardinal allemand Marx a reconnu que l'Église avait détruit sciemment des dossiers sur des auteurs d'abus sexuels.
Mathilde Imberti pour France Inter à Rome. Demain, c'est le pape François qui doit conclure, après la messe, ce sommet sur les abus sexuels. Au Nigeria, après une semaine éprouvante et un report du scrutin, les élections présidentielles et législatives se sont déroulées dans le calme aujourd'hui. Les 72 millions d'électeurs très jeunes, 60% de la population à moins de 30 ans, vont départager deux dinosaures. Les favoris ont 72 et 76 ans, le président sortant et un homme d'affaires, issu des deux partis politiques dominants et réputé corrompu. 6 ans après l'intervention française pour sauver Bamako de l'avancée des djihadistes, la guerre au Mali n'est pas gagnée, ni la paix. En visite aujourd'hui, le Premier ministre Édouard Philippe a signé un accord pour 85 millions d'euros de nouvelles aides financières. Il a aussi assuré que l'opération militaire Barkhane s'inscrirait dans la durée. À Bamako, notre envoyé spécial Nathanaël Charbonnier.
Il faut dire que la tâche est immense, il faut assurer la sécurité au Sahel, la sécurité au Mali, s'assurer que l'accord de paix de 2015 signé à Alger entre les différents acteurs locaux et internationaux est et sera respecté. Autant dire que les militaires de la force Barkhane ne sont pas prêts de rentrer en France. Édouard Philippe.
La France sera aux côtés du Mali aussi longtemps que nécessaire et aussi longtemps que le Mali le souhaitera. Nous sommes ici engagés dans une opération d'intérêt commun. Aussi longtemps que nous aurons besoin de lutter ensemble pour mettre en œuvre ces accords, nous serons à la disposition et mobilisés pour faire en sorte que ces accords puissent être mis en œuvre.
Et si la France se sent parfois un peu seule européen dans cet immense Sahel, elle peut toutefois compter sur la présence de l'ONU qui justement devra faire le point sur le Mali en mars prochain. À Bamako, Éric Gérard, Nathanaël Charbonnier, France Inter.
Rappelons que 4500 soldats français participent à l'opération Barkhane, dont 2700 au Mali, notamment à Gao, où le Premier ministre Édouard Philippe se rend ce soir.
Le journal de 19h. Sur France Inter.
Ce mois de février a été particulièrement beau et chaud. On a battu des records de température hier sur les côtes de la Méditerranée et de l'Atlantique. À Paris aussi, on en profite, comme l'a constaté cet après-midi Adrien Bossard sur les bords du canal de l'Ourcq.
Le petit panier en osier, la couverture, c'est à la mode sur le canal ce week-end.
Des parts de quiche, des légumes à tremper, de l'houmous.
Impeccable. Pique-nique improvisé pour Gaël et Guillaume.
Ouais, il y a 1h30, on s'est dit fait beau et que ça serait sympa de pique-niquer le long du canal. C'est la première fois, je pense, qu'on vient si tôt prendre un pique-nique le long du canal. Donc c'est un peu étrange.
Mais ça fait du bien.
Franchement, ouais. Le soleil, il était attendu, quoi. Ça fait du bien après la grisaille de sortir.
Julie, elle, en profite carrément pour s'allonger. Une sieste en débardeur et en short, elle ne voit pas du tout le problème.
Moi, je suis tellement heureuse qu'il fasse beau que ça me réchauffe le cœur. Et du coup, genre, j'ai chaud, alors je me mets en débardeur.
Un air de printemps à la vue, des terrasses aussi toutes pleines et des terrains de pétanque pris d'assaut. Oh là 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 là. La première partie de l'année pour Yann, Frédéric et Valentin.
Oh. Bon.
Et ça se voit.
Vous dites ça pour moi en fait.
En même temps, c'est vrai, la pétanque en février, c'est inhabituel. Mais les trois copains y prennent goût et vont remettre ça ce dimanche.
Alors il fait beau, mais la petite brume dans laquelle on baigne par endroits n'est pas bon signe. C'est une pollution aux particules fines due au trafic routier, au chauffage au bois et aux conditions météo. La vitesse autorisée est abaissée de 20 km/h sur les routes en Ile-de-France et dans les Hautes-Pyrénées notamment. Cette pollution, qui concerne aussi la région Rhône-Alpes-Auvergne, est particulièrement nocive pour la santé, Sandy Dauphin.
Depuis une dizaine de jours, une pollution aux particules fines s'est installée en Île-de-France. Une pollution typique de la fin de l'hiver, début du printemps. Habituellement, cette pollution est dispersée, mais les conditions météo actuelles, du froid la nuit, de la douceur la journée et une absence de vent, piègent ces particules comme sous une chape. Elles sont dues aux trois quarts au trafic routier, le reste au chauffage au bois. Plus elles sont fines, comme en ce moment en Île-de-France, et plus elles sont nocives pour la santé, car elles s'immiscent dans le système respiratoire sans être filtrées par les narines. Ces très petites particules sont pourtant moins réglementées. Il existe des seuils annuels à ne pas dépasser pour les PM2,5, comme on les appelle, mais pas de seuil quotidien, comme pour les particules plus grosses, les PM10. Autrement dit, il peut y avoir une forte concentration de très fines particules un jour donné, sans que cela ne déclenche d'alerte à la pollution.
Le sport, les rugbymen français se reprennent dans le tournoi des Six Nations après deux défaites face à l'Angleterre et au Pays de Galles. Ils ont battu cet après-midi l'Écosse 27-10. Bonsoir Vincent Pellegrini.
Bonsoir Sarah.
Vous êtes au Stade de France où le pari de la jeunesse a payé.
Et oui, illustration à la 14e minute, hein, une magnifique relance très audacieuse du jeune Thomas Ramos. Et au bout de cette relance, un essai d'un autre jeune espoir du rugby français, Romain Ntamack. On les a beaucoup vus, ces jeunes joueurs. Tout n'a pas été parfait dans la prestation du 15 de France cet après-midi, mais les Bleus ont réussi à inscrire 4 essais, synonyme de points de bonus offensif face à une équipe d'Écosse, il est vrai, très faible, privée en plus de ses meilleurs éléments. Mais cette équipe de France s'est montrée mentalement capable de réagir après la claque reçue à Twickenham il y a deux semaines après cette série de contre-performances, de déconvenues, de déboires depuis déjà de longs mois. Elle a été capable d'inscrire donc 4 essais, même si la deuxième mi-temps a été beaucoup plus poussive. Les Bleus se relancent un petit peu dans ce tournoi, mais attention car le prochain match sera très périlleux, un déplacement en Irlande dans deux semaines.
Oui, merci Vincent Pellegrini. Ce sera le 10 mars. Et de 51 buts pour Kylian Mbappé en Ligue 1, le footballeur du Paris Saint-Germain a marqué deux fois cet après-midi face à Nîmes, score final 3-0. Il était un représentant de l'âge d'or d'Hollywood. Stanley Donen, le réalisateur de Chantons sous la pluie, s'est éteint à l'âge de 94 ans. Il avait reçu en 1998 un Oscar pour l'ensemble de son œuvre. La vie connectée vient-il illustré cette semaine l'explosion des podcasts, que ce soit ceux de Radio France ou de tout un chacun, puisque cette révolution des programmes radio en ligne est à la portée de tous. Exemple avec l'application Talkers que vous nous faites découvrir cette semaine, Christine Séméon.
Et oui, les offres de podcasts fleurissent aussi vite que les pâquerettes au printemps et le sujet n'est pas ici d'en faire ni une liste ni une sélection. En revanche, il s'agit de poser cette question. Une application qui propose aux gens de s'enregistrer directement et de faire leur talk ou leur show, pour rester dans les anglicismes simplement, comment ça marche?
Donc on appuie sur le bouton enregistrement, on parle là maintenant.
Voici la réponse de Jean-Baptiste Penant, cofondateur de Talkers.
Et là, vous avez, vous faites suivant, vous changez l'image si vous en avez envie, le titre, bien sûr, pour le référencement, c'est important, et vous appuyez sur partager.
Alors, on va écouter un vrai talker, pas celui que nous, on vient de faire. Eh bien, écoutez, on va écouter quelqu'un qui s'appelle Critique Masqué.
Bonjour et bienvenue dans cette Critique Marché. Voilà, un nouveau format où je vais parler du film Green Book. Green Book, sur les routes du Sud, je crois, le titre français. Donc, qui est réalisé par Peter Farrelly, un des deux frères Farrelly.
On va s'arrêter là. Lui, il a un concept sympa. C'est, il sort du cinéma, il a le film en tête, et entre le cinéma et la bouche de métro, il s'enregistre dans la rue et il dit ce qu'il en pense. Voilà.
Alors, critique cinéma en marchant, critique cinéma en fumant, ça existe aussi sur Talkers, tout est possible. On peut aussi imaginer que des poètes, par exemple, vont se mettre à dire leurs textes dans leur voix, comme ils le font en images sur YouTube ou Instagram. Bref, sur Talkers, on trouve des podcasts comme ceux de Radio France, des podcasts comme ceux de la concurrence, des podcasts indépendants. Nul ne peut dire pour l'instant si ça aura du succès, mais pour Jean-Baptiste Penant, c'est la voie de la liberté.
Effectivement, il y a un moment où on se disait qu'on était les radios libres du 21e siècle. Et on pense que, effectivement, les médias ne doivent pas obligatoirement appartenir soit à l'État, soit à des grands industriels. Les citoyens, c'est le grand mot actuellement, peuvent aussi s'emparer de la voix et finalement de la radio à l'ère du numérique pour pouvoir s'exprimer à travers une plateforme comme Talkers où tout le monde a le droit de parler. Ce qui ne veut pas dire droit de dire n'importe quoi, il y a évidemment des limites.
Les limites sont celles de la loi. Talkers, c'est sur votre PC ou smartphone.
Et la vie connectée, c'est à retrouver sur franceinter.fr. La météo de votre dimanche.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse,
soie ou cachemire. Belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Ce beau mois de février n'est pas fini, Jean-Michel Golinski.
Demain, il y aura peu de changements dans le paysage météorologique français avec la persistance d'un ciel dégagé sur la plupart des régions. Néanmoins, en matinée dans la moitié sud du pays, la grisaille risque de faire obstacle pendant quelques heures au soleil. Des nuages bas qui pourraient d'ailleurs encore parfois persister l'après-midi entre les Pays de la Loire et le nord de l'Aquitaine. Sur la Corse, le vent d'est sera toujours très turbulent avec des rafales proches de 100 km à l'heure en montagne et sur les caps. Il faut s'attendre à des gelées en fin de nuit vers 0-3 degrés, notamment de l'intérieur de la Normandie et la frontière allemande. L'après-midi, les valeurs vont rester un peu comme ces derniers jours, confortables pour l'époque de l'année, avec près de 20 degrés prévus au sud de la Garonne, 14 à 17 en général sur le reste de la moitié sud et 11 à 15 degrés plus au nord.